Donc si on arrive à les faire adhérer à cette vision du futur, à ces projets, et à ce qu'ils comprennent mieux ce qui est vraiment en train de se faire, ben, je pense qu'on a un vrai impact et une vraie influence. On a un salon de recrutement dédié à l'impact, on a un classement des écoles et universités pour changer le monde, pour orienter les étudiants qui se posent la question de comment est-ce que je peux vraiment me former à ces questions-là et être à la hauteur des enjeux qui arrivent.
Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle saison d'Expérience Podcast. Aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège et l'honneur d'une personne qui est impactante en plus, mais je pense d'une grande sincérité, d'une grande authenticité. Et c'est ce que j'apprécie dans ce podcast depuis que vous commencez à me connaître. Donc j'ai le plaisir de t'avoir à ce micro qui est bleu, avec ta belle chemise blanche, mon cher Santiago. Comment vas-tu aujourd'hui ?
Ça va bien, ça va bien. Là, on est en plein dans la préparation de la prochaine édition de Change Now, de notre sommet qui rassemble des acteurs du monde entier. Et là, comme on est vraiment dans la dernière ligne droite, tout va très vite, mais c'est justement un moment parfait pour faire justement un petit peu le point, de reposer les choses et de prendre de la hauteur.
Exactement, je pense que c'est ça. Voilà, l'intitulé de cet épisode, c'est de prendre un recul pour le coup sur tout ce que toi tu as apporté aussi, parce que c'est la 7e édition qui va avoir lieu dans moins d'un mois officiellement, parce qu'on enregistre moins d'un mois, et ça va être vraiment palpitant. Comme tu disais, c'est les derniers ajustements de dernière minute avec des personnes qui vont venir, d'autres qui ne peuvent plus venir, mais il y a toujours possibilité de lancer la chose.
C'est ça qui est génial. En vrai, vu de l'extérieur comme ça, c'est dur à imaginer, mais un événement comme Change Now, c'est un défi éditorial, parce que chaque année, il faut raconter des histoires et vraiment un peu essayer d'être au cœur des sujets qui sont importants aujourd'hui dans la transition écologique et sociale et dans la manière dont on voit un monde meilleur. Donc ça est vraiment une quête éditoriale et un challenge là-dessus. C'est un challenge logistique parce qu'on a c'est 400 intervenants, c'est 1000 solutions, c'est 35 000 personnes. Donc d'un point de vue logistique, c'est quelque chose. Il faut les nourrir, il faut que tout se passe bien d'un point de vue technique, il faut que la sécurité soit là. Et puis après, c'est un challenge artistique parce que l'idée, c'est qu'en fait, lorsqu'on vient à Change Now, on soit touché, émerveillé. Et moi, j'ai toujours imaginé à l'événement plus comme un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions éphémère, quelque part, où pendant 3 jours, on vient vivre des choses fortes et intenses, parfois émotionnelles, parfois rationnelles.
Je te rejoins totalement. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière d'avoir assisté à 2 journées, pour le coup, de ce bel événement. Et c'est vrai qu'en sortant, tu te dis, c'est impressionnant. Déjà, le lieu, pour le coup, où vous aviez organisé cet événement, qui sera le même lieu, pour le coup, cette année, tu changes... Oui, tu parlais de sourire, de joie. Tu dis, mais aussi toute cette organisation, c'est quand même un gros sujet, mais c'est palpitant. Les interlocuteurs, interlocutrices qui t'ont invité à Change Now, tu sais qu'ils sont là pour changer le monde à leur échelle, mais c'est vraiment impactant. Et je trouvais que ça, il y avait vraiment un sens premier. Et moi, j'avais une première interrogation avant que tu te présentes. Quelle a été vraiment, pour le coup, tu parlais d'imaginaire. Moi, j'aime beaucoup, on parle d'une idée, d'un rêve. Comment ça t'est venu, cette idée, pour le coup, de créer cet événement Change Now qui fêtera sa 7e édition dans quelques jours?
Alors, l'idée, en vrai, c'est une accumulation de choses qui ont vraiment donné naissance à Change Now. La première, c'est que moi, j'étais, après une première partie de vie professionnelle, j'étais allé faire un MBA à l'INSEAD, pendant lequel j'ai lancé les TEDx de l'INSEAD. Lorsque j'organisais ça, je me disais, c'est très bien, ces personnes-là ont des idées, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce qu'on va plus loin et comment est-ce qu'on accompagne ces idées brillantes à passer à l'action et à l'échelle? Donc, il fallait une place pour faire ça. Puis, moi, j'avais été entrepreneur avant, on y reviendra sûrement, mais j'avais été entrepreneur avant. Et là, quand j'ai vu des acteurs qui essayaient de dépolluer, enlever la pollution plastique, aider les réfugiés ou d'autres choses comme ça, je me disais, ça, c'est le genre d'entrepreneuriat que je voudrais faire, sauf que je ne sais pas par où commencer, où rencontrer mes pairs, où trouver mon financement. Et puis, dernière brique, je voulais aussi, moi, j'ai une fibre très humaniste et je m'étais dit, ce serait génial si on pouvait rassembler les lumières de notre époque, les prix Nobel, et à quoi pourrait ressembler un monde si on rassemble toutes ces personnes-là. Et Chechnov, c'est un peu la somme de tout ça, qui a été alimentée aussi avec la COP21, puisque c'était pile l'année où je me posais toutes ces questions-là. Et on met tout ça dans une grande machine, on tourne, et puis voilà ce qui sort, une idée beaucoup plus précise de créer la plateforme qui va aider à tout à chacun à passer à l'action, à être acteur d'un monde meilleur, à apprendre et à agir à son échelle et au-delà.
Oh, c'est super, je veux dire que je vis la chose d'une manière très succincte, mais vraiment l'observation de ce que tu racontais, c'est, tu parlais d'une personne qui est très humaniste comme tu es, je pense que dans cet événement il y a aussi autant de personnes qui ont vraiment un sens dans la vie et une profondeur d'esprit de pouvoir changer les choses, comme tu l'as dit justement. Mais avant tout, pour les personnes qui n'ont pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, comme tu as envie?
Je m'appelle Santiago Lefebvre, prénom espagnol avec un nom français. En fait, ma mère est d'Espagne, de Madrid. Elle avait quitté l'Espagne au moment du franquisme. Donc voilà, d'où ce mélange exotique nom-prénom. Et j'ai grandi dans un tout petit village à 1h30 de Paris, dans la Beauce, dans les champs, dans la campagne. Et c'était un village où finalement les perspectives, il n'y en avait pas tant que ça. Ma famille était, on peut dire, pauvre en soi. Et donc, très vite, j'ai développé une vraie volonté de rêver grand pour m'en sortir quelque part, en fait. Et donc, voilà, très tôt, j'ai voulu créer des entreprises, créer des choses. Et j'ai eu une soif d'action et d'apprendre très tôt et qui me suit encore toujours. Toujours, je veux apprendre et agir. Je dirais, c'est un peu mes deux mots qui définissent beaucoup mon quotidien. Et donc voilà, je sors de... j'ai grandi là, dans un lycée en zone prioritaire où j'ai appris l'existence des classes prépa en terminale grâce à un professeur qui m'avait vu en disant en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et quand je lui parlais un peu de ses ambitions, il m'a dit, en fait, faut que tu fasses une école de commerce, que tu fasses classe prépa. Et il m'a dit, par contre, pour ça, il faut que tu lises, il faut que tu lises beaucoup. Et je me suis mis à lire, en fait, très tard. Finalement, en terminale, j'ai commencé vraiment à bouquiner, à dévorer, qui est encore une des passions que j'ai aujourd'hui. Donc, en fait, beaucoup de choses se jouent tôt et dans l'enfance et sont des marqueurs de qui on est aujourd'hui. Et donc, voilà, je fais la classe prépa à Paris. Ça me permet de découvrir un peu la vie parisienne, même si je fais des allers-retours, c'est-à-dire c'est 3 à 4 heures de transport par jour parce qu'on n'avait pas les moyens de me payer une chambre ici à Paris. Donc, je retournais dans ma campagne tous les soirs. Et tout ça paye puisque je vais à l'EM Lyon. L'EM Lyon, école de commerce où j'apprends énormément. Je sors à l'inspection générale en banque parce que je voulais maîtriser la finance. Au bout de quelques années, même si je faisais des trucs un peu cool, je dirais, parce que ça m'a plu, tout le volet... Enfin, je me suis pas mal spécialisé sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Donc ça, j'avais trouvé mon utilité finalement là-dedans. Au bout de 3 ans, je me dis en fait, les perspectives, c'est pas ce qui. Enfin, j'ai pas envie de rester là-dedans à long terme. Et donc, il y a une opportunité de créer une première entreprise, une vraie. C'est-à-dire que j'avais fait plein de tentatives beaucoup plus jeunes, mais là, je me dis, allez, on y va vraiment. Et je crée une première entreprise dans les jeux culturels en ligne. Donc c'est du quiz, c'est du solitaire, c'est des choses où il fallait réfléchir et essayer d'apprendre en même temps. C'est une expérience entrepreneuriale qui m'a beaucoup appris, qui ne m'a pas enrichi du tout parce que ça n'a pas forcément marché. Du coup, au bout de 3 ans, j'arrête cette première expérience. Et là, vraiment l'objectif, c'est de dire, il y a un rêve qui m'a toujours suivi, qui était d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut apprendre d'un point de vue commerce. Et donc, je voulais faire un MBA, un troisième cycle dans la gestion d'entreprise. Et je me dis, vas-y, on y va. Et je me prépare pour faire l'INSEAD. J'arrive à rentrer à l'INSEAD à ce moment-là, ce qui est pour moi... Je l'ai vraiment vécu comme une deuxième chance dans ma vie qui s'ouvrait. Voilà. Parce que la première partie de vie professionnelle ne m'avait absolument pas emmené sur les terrains que j'imaginais. Et donc, je me dis, génial, deuxième chance, je vais pouvoir tout rebâtir. Et suite à ça, voilà, Change Now, notamment.
Et quel a été l'élément déclencheur, pendant l'INSEAD, pour le coup, de commencer à réfléchir à organiser cet événement, Change Now? Et une autre question, est-ce qu'il y a eu des rencontres pour le coup aussi durant le MBA qui t'ont encore plus percuté, encore plus, tu parlais de lecture qui est très important. Voilà, quelles sont un petit peu les orientations pour déterminer, tiens, je vais me lancer sur ce beau projet.
Alors, il y a eu des rencontres, et je dirais la première rencontre, elle remonte à pas mal de temps, puisqu'elle date de l'EM Lyon, où j'ai rencontré Rosemet Lucotte, qui est ma cofondatrice. Et après, j'ai rencontré également Aline Sead, Kevin Taillé-Bally, qui lui est mon cofondateur également. Comment ça s'est fait? Donc, moi, j'avais déjà, au moment de l'INSEAD, cette idée-là. Je pense que, et ce que l'INSEAD m'a le plus apporté, c'est que on a toujours besoin de savoir, finalement, qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et que généralement, on a toujours tendance à essayer d'éponger ou réduire nos faiblesses et de ne pas travailler sur nos forces. Et l'un des messages, moi, qui m'avait marqué, c'est si on veut vraiment faire des choses fortes, puissantes, il faut travailler là où on est bon pour devenir extraordinaire là où on est bon. Mais on ne peut pas être bon partout, sinon on sera finalement un peu moyen partout. Et je crois que toutes les rencontres que j'ai faites dans mes différents collègues externes m'ont permis de prendre confiance et conscience aussi de mes particularités, de où est-ce que je pouvais vraiment agir et de le travailler. Et je pense que c'est cette confiance-là qui m'a dit, OK, là, je sais comment maintenant je peux porter à bien et à terme un projet aussi grand que de dire on va créer, en fait, parce qu'au début c'est un peu fou de dire on va créer le plus grand événement mondial des solutions et des actions pour la planète. Et d'y croire à fond, mais parce qu'on sent qu'on a la capacité de le faire, ben ça, voilà, ça c'est par exemple un des apports pour moi de l'INSEAD.
Et j'aime beaucoup de passer vraiment pour le coup de la feuille de papier. Bah, on parlait de l'imaginaire, de la feuille de papier, de cette fameuse rencontre, ta première associée pour le coup, puis après c'est Kevin, hein, tu me disais. Et est-ce qu'il y a eu des moments, alors peut-être pour les premiers événements, parce que je pense que l'enchaînement des événements, ça se passe mieux, parce qu'on consolide notre expérience. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des doutes pour le coup? Parce que tu pars vraiment d'un très beau concept, bon maintenant qui a montré ses preuves et qui va encore continuer dans ces prochaines années. Est-ce qu'il y a des doutes?
Des doutes énormes, des doutes énormes. Pour reprendre rapidement aussi, comment dire, l'histoire, c'est-à-dire que on voit pas toute la difficulté que ça demandait pour en arriver là. Et dès le début, c'est-à-dire que, en fait, pour compléter aussi par rapport à la question que tu m'as posée juste avant, donc moi j'avais l'idée, du passage à l'idée, vraiment au passage à l'action, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je m'étais dit, je partirai jamais seul à nouveau. Ma première boîte, je l'avais faite seule. Et je m'étais dit, aujourd'hui, si je dois donner un conseil à tout entrepreneur, c'est ne n'entreprenez pas seul. Trouvez votre premier soutien et là, ça marchera mieux. Et finalement, mon soutien, voilà, c'était Rosemet, qui était aussi. En fait, on est mariés avec Rose. On est donc c'est. On avait, enfin moi j'avais cette idée-là et à un moment elle me dit et pourtant en fait j'étais pas complètement sûr de partir dans cette idée-là parce que je cherchais toujours un travail à côté et un moment j'avais une offre de country manager, c'est ce qui m'avait toujours un peu aussi fait rêver par ailleurs d'être directeur général pour une startup, pour un pays, pour une startup, et c'était une startup qui avec une appli nous permettait de faire de la réservation de parking en quelque sorte. Et là, à un moment, Rose me dit, un peu comme avait peut-être fait Steve Jobs avec le CEO de Pepsi, elle m'a dit, mais est-ce que tu veux aller ouvrir des parkings en Espagne ou est-ce que tu veux essayer de changer le monde? Voilà. Et je pense que je te dirais que le plus gros déclencheur, ça a été cette phrase-là. Quand tu es face à ça, bah, le lendemain, j'ai rappelé à la boîte, j'ai dit, bah, désolé, je décline et je me lance dans mon projet. Et boum, et c'est comme ça que ça a vraiment démarré. Donc après, Rose a aussi, quelques temps après, lâché son job. Elle était dans une boîte qui faisait de l'agroalimentaire et de la pharma, ouais, et de la pharma aussi. Donc elle était plus dans le marketing santé. Et tout ça se décide de dire, bah, on y va ensemble, go. Et là, on rentre dans un vrai parcours du combattant. Parce que plus personne ne ramenait vraiment d'argent à la maison, parce qu'on avait mis nos économies personnelles pour réserver Station F en se disant cet événement doit se passer. C'est un projet qui va dans le sens de l'histoire. Et donc, il faut trouver par tous les moyens la capacité de les faire. Donc, on met toutes nos économies dedans. Je me rappelle qu'on est à 3 mois de l'événement. On a encore 0 sponsor qui nous suit. On a mis tout, nous, et on n'a aucun financement externe qui vient. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et vraiment, moment de doute absolu. Et on a notre fils qui, à ce moment-là, est à l'hôpital. Donc, on se retrouve vraiment dans les situations terribles. Ouais. Et on se dit, on se garde encore un tout petit peu, quelques jours pour voir. Et pendant ces quelques jours, on a un coup de fil d'un premier partenaire qui nous dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La première, c'est qu'on va pouvoir venir. La mauvaise, c'est que ça va être que la moitié du montant qu'on vous avait dit. Et donc, moi qui me dit « Ah non !» Et Rose qui me dit « Mais non, c'est bon, c'est le premier partenaire !» Et donc, en effet, ça redonne confiance. En fait, on a toujours été là un peu, et même après à trois, pour toujours se trouver, à se redonner confiance les uns les autres. Parce que généralement, moi, je suis toujours hyper optimiste. Voilà. Et donc, parfois, c'est moi qui dis « Mais non tu ne comprends pas, ils ont pas vu le truc, on a le vent en poupe. » Et donc à chaque fois, on est là, en fait, il y a la solidarité qui fait qu'on passe les épreuves. Ça, c'est très important, la solidarité fait passer les épreuves. Et finalement, en l'espace de quelques semaines, 3 semaines après ce moment-là, on trouve l'intégralité de notre financement. Donc on est en juillet, où on trouve notre financement pour un événement qui se tient en septembre.
Super.
Et tout ça est aussi lié à des petites choses, hein, c'est-à-dire que en juin de cette année de préparation, il y avait Trump qui est sorti des accords de Paris, Macron qui dit « Make our planet great again ». Et là où beaucoup d'acteurs disaient « Ouais, en fait, on ne comprend pas tout ce que vous faites », sont venus vers nous en disant « Oh, en fait, c'est pas mal, c'est intéressant ». Et donc, la question climat était venue sur le devant de la scène et on était préparés.
Ouais, et puis on parle des fois de sorte d'alignement de planète où vraiment c'était le moment impactant pour le coup. J'aime beaucoup cette relation avec ton épouse. Et quelle est la complémentarité avec ton épouse que toi tu n'as pas et que tu as aussi avec Kevin ? Parce que tu dis, voilà, on est une sorte de triangle de la force pour le coup. Je pense que j'imagine bien le jour où tu annonces, maman, s'il n'y a pas de partenaire, on va faire comment ? Que dans 3 mois, c'est parti, on a loué Station F. Comment vous arrivez à trouver, tu parlais toi de ton côté très optimiste pour le coup, et quelles sont les choses sur lesquelles toi tu ne vas pas aller et que tes associés vont aller ?
Oui, alors moi j'ai un côté, je pense plutôt dans le côté visionnaire optimiste et vraiment réussir à conceptualiser quelque chose dans son intégralité en disant en fait si on veut faire sortir tel objectif, il faut avoir... telle grande masse. En fait, j'ai une vision très stratégique et intégrative des choses. Okay. En revanche, parfois, moi, j'ai le sentiment d'être un peu dans cette question de vision et de ne pas forcément toujours être dans le concret, terre à terre. Et Rose a une capacité factuelle beaucoup plus forte. Rose, aujourd'hui, moi, elle a le rôle de Chief Operating Officer. Et c'est... elle qui se dit, bah, ok, pour faire ça, il va nous falloir des équipes, il va nous falloir des moyens, il va nous falloir ça, etc. Et elle fait vraiment l'opérationnel. Et puis après, pour accompagner cette vision, il faut aussi, en effet, du financement. Et Kevin a une vraie capacité d'entre-gens, de connexion, de réseau qui est particulièrement forte. En fait, il y a une vraie capacité à emmener la vision auprès de plein de parties prenantes différentes aussi. Et donc voilà, c'est un bon triptyque à ce niveau-là.
Oh, mais c'est fort, chacun a sa propre vision, mais vous êtes alignés pour le coup. Et c'est surtout, il y a ce message qui est fort aussi en termes d'impact pour cette société qui est en pleine mutation aujourd'hui. Tu parlais des règlements climatiques. À un moment donné, c'est de trouver vraiment des bonnes solutions, donc avec les solutions qu'il y a dans Change Now, mais comment vous êtes arrivé, c'est-à-dire, vous étiez sur une grande table et dire, peut-être, je ne sais pas, peut-être la première année à Station F, qui a accepté le premier de venir, parce que bon, là, il y a des intervenants qui viennent de renommée internationale. Comment vous êtes organisé à dire, mais tiens, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices dans le monde, on va choisir qui et comment on va intervenir, interroger les personnes pour qu'elles puissent accepter à venir.
Oh, ça se fait Ça se fait assez naturellement en réalité. Parce que t'as pas forcément d'avoir une logique très claire. Faut se repositionner quand même en 2016. 2016, le mot d'impact n'existait pas vraiment en France. C'est-à-dire que nous, on portait ce mot-là, plein de monde nous disait, ah, faudra peut-être que vous changez de mot, etc. Parce que personne ne comprend. Et en même temps, c'était une vraie volonté pour nous de venir avec un mot qui était nouveau et qui pouvait incarner un spectre très large de l'entrepreneuriat, en fait. Puisque c'est l'entrepreneuriat social, mais c'est également un entrepreneuriat environnemental et un entrepreneuriat porté de manière générale vers la volonté d'avoir un impact positif d'intérêt général. Donc il fallait qu'on trouve quelque chose de cool et impact nous semblait extrêmement bien. Donc voilà, on est quand même dans un moment balbutiant où il n'y a que quelques pépites qui existaient à l'époque. Et donc quand même, moi je te dirais que plus que qui est là le premier intervenant qu'on va inviter, etc., c'est plus quelles sont les typologies d'acteurs que tu vas faire venir on board. Et en effet, lorsqu'on veut créer un effet boule de neige comme ça, soit tu te dis, bah, on va essayer de trouver directement le secrétaire général de l'ONU, etc. Mais là, c'est peine perdue. En fait, pour moi, je dis souvent, si on va chercher tout de suite le game changer, en vrai, on n'y arrive pas forcément. On prend un risque énorme. En revanche, il faut qu'on crée notre base de la boule de neige. Et donc, les personnes à ce moment-là, qui étaient les plus faciles à convaincre, c'était celles qui avaient besoin de ça, c'était finalement les entrepreneurs de l'impact. Ils étaient très peu. Personne ne s'intéressait à eux. Aujourd'hui, ils sont invités à toutes les conférences, mais à l'époque, personne ne les faisait parler. Donc, on leur dit, on veut créer un événement qui va vous mettre vraiment en avant parce qu'on pense que c'est vous, les pionniers, ceux qui vont inspirer les régénérations d'entrepreneurs futurs. Mais là, ils te disent, OK, on y va. Donc, on avait ces 10 premiers. Qu'on avait les 10 premiers. Après, on va au niveau du dessus, on va voir Station F. Dans Station F, vous allez bientôt ouvrir. Pour votre premier événement, nous, on propose de faire quelque chose avec nous autour de ces 10 entrepreneurs juste incroyables. Et à partir de là, ils se disent, bah, OK, même si ça a été dur, hein, on a bataillé plusieurs fois, il y a eu des noms, mais moi, il y a une phrase qui est Never take no as an answer. En gros, ne jamais accepter le non. Et donc, on a bataillé, on a réussi à les convaincre. Et après, à partir du moment où on avait et ces solutions-là et Station F, on a réussi à avoir des partenaires de l'écosystème comme la French Tech aussi, qui a été un des partenaires majeurs pour cette première édition. Et ainsi de suite, en fait. Et l'idée, c'est juste de savoir, d'avoir une prise pour amorcer la pompe. Et on n'a pas besoin de commencer par les plus gros, justement. En fait, il faut commencer par sa base. Et la base nous porte ensuite pour réussir à avoir la solidité de sortir des projets.
Je te rejoins totalement parce que des fois, on a tendance à vouloir chercher monsieur ou madame, alors qui est peut-être inaccessible dans un premier temps. Est-ce qu'il va te transmettre les vraies valeurs de votre événement? Je trouve qu'avoir trouvé 10 personnalités, je vois peut-être certains d'entre eux peut-être qui n'étaient pas du tout connus à l'époque ou qui n'avaient pas cette notoriété et que maintenant, bah grâce à ça, quand toi, tu as le pitch qui est sur la table, tu leur trouves la solution et ils acceptent. Puis après, bien sûr, Station F, pour le coup, en plus, premier événement, c'est aussi impactant. Hein. Mais c'est drôle quand quoi? C'est-à-dire qu'en France, tu parlais en 2016, donc en 2016, le mot impact, c'était pas encore écrit, on va dire.
Non, 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 c'est venu au fur et à mesure. C'est un mot. Alors, il y avait un mot anglo-saxon. En fait, il y avait le social impact. Ça, c'est un mot qui existait depuis pas mal de temps. C'est vrai que nous, on voulait effacer un peu le clivage entre soit tu fais du business, soit tu fais du social. Aujourd'hui, tu pouvais et montrer vraiment, avec des exemples concrets, que tu pouvais avoir des entreprises avec un vrai business model, des vraies ambitions qui sont là pour servir avant tout des problèmes d'intérêt général. Okay. Et donc, on s'est dit, on va parler juste d'impact et on va enlever le social parce que le social est aussi réducteur par rapport à la question environnementale. Et donc, on est vraiment parti finalement d'un twist un peu du mot anglais, du terme anglais.
Et après, bah là, ça va être la 7e édition dans quelques jours. Quelles sont les évolutions pour le coup? Toi, en termes d'évolution du projet, donc on partit de mission de 10 entrepreneurs, là, tu me parles de 400 intervenants, donc il y a aussi un gap qui est impressionnant. Est-ce que ça rentre vraiment de plus en plus dans la tête des personnalités aujourd'hui? Peut-être pas que politique, mais on parle beaucoup de solutions pour traiter les déchets. Tu parlais de plastique qu'on trouve malheureusement encore dans la mer. Donc, est-ce que c'est encore, pour le coup, le mot impact a vraiment son sens? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, on a fait un grand pas par rapport, tu vois, par rapport à ces 7 dernières années, 6 dernières années? Comment ça a évolué?
Le monde a changé, hein, entre notre première édition et aujourd'hui, le monde a changé. Pour moi, il y a eu, moi je l'ai senti courant 2018, une vraie accélération. Donc c'était au niveau de, entre notre deuxième et troisième édition, il y a vraiment une accélération. Puisque d'ailleurs, on l'a senti, nous notre troisième édition, on l'a fait au Grand Palais. On a eu cette chance incroyable. Et c'était vraiment aussi pareil, quelque chose, une aventure humaine hors norme, parce que on sort de notre deuxième édition à Station F, où on était encore sur des, j'allais dire, des petits volumes. C'est-à-dire qu'on a eu 2000 participants à la première édition, 6000 à la deuxième. C'est à peu près 2000 mètres carrés, Station F. Et là, on a la chance de rencontrer les équipes du Grand Palais. Et il y a un pitch comme ça, assez naturellement, qui vient, qui est de leur dire, voilà, il y a 150 ans, il y avait la révolution industrielle. Et pour accélérer la révolution industrielle, à l'époque, on avait créé des super vitrines qui étaient les expos universelles. Ben là, 150 ans après, c'est une nouvelle révolution qu'on est en train de vivre. Et c'est une révolution environnementale et sociale. Et on veut créer ce même genre de plateforme et revenir ici sur les traces de l'Expo 1900 pour créer la première expo universelle pour la planète. Et le pitch fonctionne, fait mouche. Très vite, ils disent, bah, en effet, c'est ici que ça doit se faire. Et on se retrouve, alors qu'on est une équipe de, j'allais dire, de 4,5, à passer d'un 2000 m² à un 15 000 m².
Ah, c'est énorme.
À se dire, on ne sait vraiment pas comment est-ce qu'on va sortir ça, mais une chance comme ça, on n'en a qu'une dans sa vie. Donc, on y va. Et là, on donne tout pendant 14 mois. Et je dirais, c'est là où on sent vraiment le shift, hein, c'est que on est passé d'un espace où on avait une centaine de solutions à 1000 solutions qu'on allait chercher. Et donc, c'est-à-dire que là où on avait du mal, on trouvait les 10 premiers, quelques années après, on arrive à en trouver 1000. Donc clairement, il y a une traction, quelque chose qui se met en place, qui est fort, qui est puissant. Et cette édition-là, pour moi, est vraiment, il y a un avant et un après. Même si après, c'est le Covid, le fait d'avoir fait, on a eu la chance de la faire
avant.
Quatre semaines avant le confinement. Donc oui. On était déjà au début du Covid. On a quand même eu la chance de le faire et ça a vraiment tout changé parce qu'on avait réussi à démontrer un moment que ce sujet-là était vraiment l'image de l'avenir qui pouvait se faire, en fait. Et depuis, nous, on le sent, hein, les entreprises sont beaucoup plus engagées sur ces questions-là. L'intérêt du politique est de plus en plus fort. Voilà, et on se dit que nous, justement, on a un rôle à jouer par rapport à ça, parce que on rassemble. Finalement, on rassemble à la fois les imaginaires et ceux qui sont en train de les accomplir, et on arrive à présenter ça à des personnes qui doivent voter nos lois, qui doivent voter les engagements des budgets des gouvernements. Et donc, si on arrive à les faire adhérer à cette vision du futur, à ces projets, et à ce qu'ils comprennent mieux ce qui est vraiment en train de se faire, ben, je pense qu'on a un vrai impact et une vraie influence.
Je rebondis sur ce que dit. En termes d'influence, est-ce qu'il y a des personnalités, pour le coup, on arrive bientôt à la septième saison, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont dit, tiens, c'était écrit dans mon livre de vie que je devais organiser ça, et je sais pas, une rencontre, quelques personnes, qui auraient dû y en avoir beaucoup, mais est-ce qu'il y en avait vraiment, pour le coup, qui sortent du lot? Parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, interlocutrices que tu as depuis de nombreuses années.
Ah, il y en a pas mal. Puisqu'en fait, ce qui est assez fascinant avec Change Now, c'est qu'il y a des personnes qui nous ont nourris en termes de fascination. Cette personne-là, c'est une personne qui incarne beaucoup des choses qui m'inspirent aussi d'engagement. Et finalement, de me retrouver à les côtoyer, à les inviter, etc. Ça, c'est super. Et si je donne quelques exemples, je vais en parler rapidement de trois, mais il y a par exemple Jane Goodall qui est cette femme qui est allée vivre avec les chimpanzés. Et en fait, Elle a fait partie vraiment d'un projet d'études, mais c'était une des premières femmes finalement à faire ce genre de travail. Et elle arrive à voir, et dans son expérience sur place, que les singes, eux aussi, développent des outils, qu'il y a des liens familiaux qui se créent, etc. Et que ce n'est pas juste l'humain qui sait faire ça. Et donc finalement, ces recherches ont vraiment questionné sur la place de l'humain, la place des animaux. Et depuis, elle est vraiment devenue une des personnalités qui parle le mieux de cette préservation de la nature dans le monde. Et on a eu la chance de l'accueillir. Et c'est une rencontre qui touche parce qu'elle est extrêmement émouvante. Pour moi, elle fait partie de ces personnes qui sont des lumières vivantes, en fait. Et donc voilà, elle sait partager cette lumière-là, et je pense qu'elle elle nous en a laissé une petite partie au fond de nous, au fond de moi. Ah, donc ça, c'en est une. L'autre, il y a Satish Kumar aussi, qui est le fondateur du Schumacher College, et qui a vraiment une bienveillance. Il parle beaucoup de ces questions d'amour. Et ce qui est super fort avec lui, c'est que le mot d'amour peut paraître galvaudé. En fait, aujourd'hui, on n'ose plus trop parler de ça. Mais pourtant, lui, il le met au cœur de ses discours et ça fonctionne et ça rallie et ça apaise les discussions, ça ouvre des voies et je trouve que c'est fantastique. Et voilà, et depuis, c'est un fidèle de Change Now. On a une relation dans le long terme et qui nourrit beaucoup. Et puis le dernier, je dirais, on a eu la chance l'année dernière d'avoir Raoni, d'accueillir Raoni avec aussi d'autres chefs. Et ça a été un moment extrêmement fort parce que quand ils arrivent tous ensemble, en fait, ils venaient comme ça en ligne, en se donnant la main de face et on sent comme une vague qui vient. Et quand j'ai demandé pourquoi ils venaient comme ça, ils disaient parce qu'en fait, on ne vient pas seul, on vient tous ensemble et on vient aussi ensemble avec nos ancêtres, etc. Et cette force-là, cette énergie-là, eh bien, elle se sentait, elle était palpable. Et ça, c'est... je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai senti cette force-là. En fait, c'est une vague déferlante que rien ne peut arrêter et qu'on a envie d'accueillir. Et voilà, donc ça, c'était puissant.
Je pense que le public aussi a dû la ressentir. Hein.
Oui, ouais, ouais.
Cette année, il y a des changements qui sont plus opérés par rapport à l'année dernière. Il y a des accélérations aussi, pour le coup. Et quelle est, à toi, ta propre vision de l'année dernière à quelques jours de Change Now ?
L'enjeu qu'il y a avec Change Now, c'est qu'il faut accompagner énormément de monde qui vient à des différents niveaux d'engagement. Au début, c'était assez simple parce qu'en fait, on accompagnait surtout les entrepreneurs pour qu'ils trouvent des investisseurs, des soutiens médiatiques, des soutiens politiques, etc., qui puissent grandir. Aujourd'hui, on aide les entrepreneurs, on essaye d'accompagner des citoyens qui se posent des questions, des personnes qui veulent changer d'orientation, des maires qui viennent en disant bah, « moi, j'ai envie de transformer ma ville », des investisseurs qui se disent bah, « moi, j'ai envie de changer ma thèse d'investissement ». Donc en fait, on a vraiment toutes ces personnes-là sur un spectre très, très large. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive chaque année à emmener ces personnes-là à l'étape suivante ? Parce que le changement, il se fait comme ça, en fait. C'est quelque chose qu'on travaille en permanence, qui a évolué encore cette année, puisque voilà, deux choses très claires qu'on a mis en place. Cette année, ce sera la première fois lorsque tu rentres dans une de nos zones, parce qu'en fait, quand tu viens à l'événement, tu rentres dans la zone océan, dans la zone agriculture, dans la zone ville durable. Et là, on s'est dit, là, on est au moment où c'est très important d'expliquer finalement quels sont les enjeux de chacune de ces zones et de ces thématiques. Parce qu'on est dans un monde complexe où tout est quand même... entremêlés, on peut avoir ce sentiment de oh, c'est trop compliqué pour moi, on lâche l'affaire. Et en fait, la première chose qu'on veut faire, c'est dire non, on va te dire vraiment qu'est-ce qu'il faut comprendre dans les bases, quels sont les enjeux majeurs qu'il y a là-dessus, pour que tu puisses après te sentir quand même en capacité d'agir. Donc là, voilà, on a ce volet-là, très pédagogique, et qui explique finalement la ligne éditoriale et qu'est-ce qu'on va trouver derrière. C'est-à-dire que tu vois les enjeux, et ben les entrepreneurs que tu vois derrière, ils sont en train de répondre à ça. Okay. Ah, donc une grille de lecture. Et le deuxième, il y a des aspects plus de, d'influence aussi. C'est-à-dire qu'il y a des vrais sujets qui, aujourd'hui, doivent être accompagnés. Et j'en prends un concrètement, mais il y a la question des... la question du minage en eau profonde. Okay. Aujourd'hui, il y a la question de savoir est-ce qu'on a le droit de créer des mines dans les fonds marins. Certains pays le veulent, d'autres pays ne le veulent pas. La France est parmi les leaders de ceux qui ne le veulent pas. Mais la bataille, elle se joue sur les prochaines années. Donc ça, c'est le genre d'espace, enfin de thématique qu'on veut mettre à l'agenda d'un événement comme Change Now. Parce que pas tout le monde est au courant du sujet. Parce qu'on a besoin de rallier très largement, que ce soit des acteurs politiques comme la sphère citoyenne, activiste, mais aussi les entreprises qui vont prendre position en disant, bah, par exemple, moi, je décide de ne pas m'approvisionner à l'avance. Je dirais, moi, je ne m'approvisionnerai pas en métaux qui viennent des fonds marins. Parce que le minage en eau profonde, ça détruit l'ensemble des écosystèmes. C'est encore un des espaces sur Terre qu'on n'a pas complètement encore... exploiter, donc autant aussi le laisser, mais voilà, en tout cas il y a des vraies conséquences sur les capacités de l'océan à devenir un puits de carbone, à garder la biodiversité et sa santé. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on met à l'ordre du jour, qu'on va essayer d'emmener d'édition en édition et aussi entre les éditions, comment est-ce qu'on peut accompagner certains sujets. Je disais celui-ci, mais la question de l'agriculture régénératrice, c'est aussi un sujet qu'on va porter dans le long terme. C'est ce qu'on a fait un peu globalement aussi avec les indigènes sur les 3 dernières années, et on repartira sûrement sur un nouveau cycle de soutien de cette question-là. Voilà, la question et l'évolution, elle est là. C'est comment est-ce qu'on change now, on organise l'événement, mais on est aussi, et depuis toujours on l'a été finalement, mais c'était pas forcément palpable, acteur à part entière de cette transition qui est en train de s'effectuer.
C'est super, moi ça me... Tu dis, moi j'ai hâte d'être dans quelques jours à ouvrir les portes, de découvrir ce nouveau lieu, même si c'est déjà l'année dernière au même lieu, mais c'est trouver vraiment ces évolutions pour le coup. Parce que je trouve que quand on dit les mots, qu'on actionne les choses, qu'on réalise les choses et qu'on se rend compte que notre terre, comme disait un ancien président de la République, elle commence à disparaître, donc la terre brûle, donc c'est vraiment des sociétés qui ont vraiment des enjeux primordiaux pour le coup. Et c'est vrai que animer toute cette relation, être un chef d'orchestre avec tes associés, de transmettre pas qu'un simple sourire, mais vraiment des conditions qui sont importantes pour le coup pendant cet événement, et changer les choses tout simplement. Parce que...
Tu parles de transmettre le sourire. En réalité, moi j'espère qu'on est un porteur d'espoir en fait, parce qu'aujourd'hui. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est l'espoir, c'est ce qui nous permet de rentrer en action. C'est parce qu'on a quand même une chance de s'en sortir, qu'on peut tout mettre en œuvre pour y aller. Et moi, je considère, Change Now, on essaye de montrer 3 choses. On essaye de montrer que il y a de l'action concrète, il y a de l'espoir et il y a de l'humanité. Et en fait, l'humanité, pour moi aussi, elle est hyper importante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous unit tous. Et qui est finalement la partie... En fait, quand on prend... Pour moi, c'est vraiment cet endroit-là où est gardée la plus belle partie de chacun de nous, en fait. Et qu'on est dans un monde qui a tendance à réduire cette part-là, ou en tout cas à la mettre parfois en sourdine. Et moi, je trouve que... Voilà, et quand je te parle des 3 personnes qui m'ont le plus marqué, ce sont 3 personnes qui se sont ouvertes à 100% à leur humanité. Tu vois. Et donc, voilà, pour moi, on est vrai... À travers Change Now, moi, ce que j'espère à terme, c'est qu'on puisse pousser les gens à accepter entièrement cette humanité et d'agir en conséquence. Parce que quand tu fais ça, ton rapport à l'autre change, ton rapport à toi aussi, ton rapport à la nature. Et à mon avis, c'est la clé de beaucoup de choses.
Oui, et puis surtout, tu parles d'ouverture, de meilleure connaissance de soi et surtout de... d'oser lâcher les choses quand il faut les lâcher. Parce que je pense que des fois... Chacun ferme un petit peu la porte, verrouille des choses, font exploser le verrou quelques nombreuses années après, mais des fois, il est un petit peu trop tard. Je trouve que c'est un sens profond, c'est un sens, tu parlais très simplement d'humaniste, de se découvrir, oser se découvrir, de dire les choses aussi. Et pas que dans cet événement-là, mais même intellectuellement, de se dire, on dit toujours qu'on n'a qu'une seule vie normalement, il y a d'autres religions où il y a plusieurs vies, mais c'est de se dire, bah, tiens, maximisons cette relation avec les personnes qu'on a, la chance, dans cet événement qui va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont être présentes à écouter, à déjà avoir réfléchi sur pas mal de thématiques et de se dire, bah, tiens, on parlait du sourire commun, mais je trouve que le sourire, il est tellement communicant. C'est, transmettons, continuer de transmettre cette joie. Et puis avec toutes ces personnes qui sont dans cet événement-là, c'est d'être simple, je pense qu'il y a vraiment de la simplicité et puis un message fort pour le coup. Pour rebondir par rapport à ça, quel pourrait être... c'est une question des fois qu'on pose en RH, t'es un ancien RH, mais j'aimais bien cette question parce que t'aimerais quoi avoir comme vision dans les 2 ou 3 prochaines années pour le coup ? Ta réalisation, votre réalisation de Change Now, tu dis, tiens, t'imagines dans le meilleur des scénarios possibles, même je suis sûr qu'il peut y arriver, quel serait le meilleur scénario possible pour en se projetant ?
Alors, il y a deux choses hein, quand même. Il y a Change Now en tant qu'événement et Change Now en tant qu'organisation. Parce que sur l'événement, alors parce que voilà, je tiens à préciser, voilà, Change Now, c'est on a ce sommet qui est le fer de lance de ce qu'on fait, mais à côté de ça, on fait plein d'autres choses. On fait des choses sur, on a un salon de recrutement dédié à l'impact, on a un classement des écoles et universités pour changer le monde, pour orienter à la fois les candidats vers des nouvelles voies de carrière, en tout cas pas les candidats, mais les étudiants qui se posent la question de comment est-ce que je peux vraiment me former à ces questions-là et être à la hauteur des enjeux qui arrivent. Et ben là, il y a un classement aujourd'hui qui te dit, bah, si tu prends cette école-là ou cette école-là, c'est celles qui aujourd'hui ont fait le plus d'efforts pour se transformer. Donc on a ça, on a des choses qu'on fait sur le volet du sport, sur et on prépare aussi des autres événements. Je te parlais de l'agriculture régénératrice. Oui. On a un événement aussi qu'on va faire en octobre, qui est le World Living Souls Forum, qui avait été créé par Mwetensi. Et on devient co-organisateur pour vraiment renforcer ce volet-là. Donc en fait, d'un point de vue entreprise, je te dirais, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place pour que notre impact se fasse sur les 365 jours de l'année. Parce qu'on est... en soi, on est hyper ambitieux sur cette volonté de vraiment changer le monde. On n'est pas là pour... c'est pas un hobby, finalement. C'est pas lancé dans le fait de changer le monde en hobby. On veut vraiment le faire, en fait. Donc voilà, on met tous les moyens pour ça. Et puis, j'espère aussi dans la vision que l'équipe... En fait, c'est une histoire humaine folle. Là, on est 35 actuellement.
Oui, je vois la photo qui est au milieu, là, oui. De l'époque. Ouais, non, c'est...
Donc là, on est 35 dans l'équipe. C'est ce énorme. Sont des personnes qui ont beaucoup grandi, beaucoup évolué avec nous. Certaines qui sont déjà sorties, créer leur propre entreprise dans l'impact. Donc voilà, je me dis, d'un point de vue humain, j'espère que ça va continuer à rayonner et que c'est par ricochet, en fait, on va créer plein de leaders de la transition pour les années à venir. Sur l'événement, y a cette vision très claire aussi depuis le début, qui est celle des expos universelles. Moi, je trouve qu'on est sur le chemin vers ça, mais on n'y est pas encore. Mais voilà, moi, j'envisage de faire venir des démonstrateurs sur la scène pour que les gens puissent voir voilà, des vrais bateaux d'exploration scientifique, etc. De faire voler, pourquoi pas, des dirigeables sur le ciel, au-dessus du ciel parisien pour voir qu'en effet la mobilité aujourd'hui on peut revenir sur des questions de mobilité beaucoup plus écologique parce que pour donner un exemple concret, il y a le dirigeable est vraiment vu comme une belle alternative sur des questions de fret hyper lourd, sur des chemins qui sont extrêmement peu praticables, par exemple pour mettre des éoliennes en haut d'une montagne. Le dirigeable est une bonne solution. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça qui sont aussi que voilà. En gros, ce que je rêve, c'est de pouvoir marquer les esprits et les cœurs à travers les expériences qu'on va fournir, parce que ça va faire adhérer plus largement à l'avenir tel qu'on peut le créer, un avenir qui, à mon avis, doit être dans la collaboration, la conciliation. Aujourd'hui, le fait est que beaucoup de monde rêve à un avenir meilleur. Les gens ne sont pas forcément d'accord sur la manière d'y arriver. Change Now est un panel de ces manières d'y arriver et on va essayer de mettre, d'imbriquer les choses ensemble pour que ça puisse faire un dessin qui plaise.
Je pense que vous avez les pinceaux, vous avez les feuilles, la fameuse feuille de route, mais une vraie feuille pour le coup, qui est costaud. Et j'aime beaucoup cet échange parce que je trouve qu'il est vraiment naturel et authentique. C'est vraiment une belle réflexion qui commence à faire son chemin, on va dire. Alors, qui a commencé aussi vers ta naissance, hein. Qui commence à peut-être avec tes yeux d'enfant de commencer à vouloir déjà changer ce monde, mais vraiment avoir cet impact pour le coup et pas juste changer le monde pour dire je vais changer le monde, je vais faire ça, mais il n'y a pas d'acte derrière. Je trouve qu'il y a vraiment ce lien qui est fort.
Bah en fait, juste pour reboucler un tout petit peu sur le titre du podcast, parce que expérience, c'est vrai que si on en est là, c'est aussi la somme d'énormément d'expériences accumulées. Et moi, je me souviens de mes toutes premières expériences. En fait, à 6 ans, moi, je me souviens que j'avais été marqué par une vidéo des baleiniers qui chassaient la baleine, de Greenpeace qui s'interposait. Du coup, mes jeux de billes, c'était, les calos. Et les calos, c'était des baleiniers, les petites billes. Là, c'était Greenpeace qui essayait de sauver et s'interposer. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai très vite été doté de l'autonomie d'essayer des choses. Et par exemple, il y avait aussi, je devais avoir 8 ans, je dirais, 8-9 ans max, il y avait une émission à la télé qui s'appelait « Terre, attention, danger » avec le docteur Klein et Dorothée, etc. Et ils appelaient à la fin à chaque fois d'envoyer une lettre, une carte postale pour dire que c'était une sorte de pétition et il fallait envoyer une lettre pour protéger les animaux. Et j'avais envoyé une première lettre, puis je voulais en envoyer une deuxième et je me suis dit bah, comment est-ce que je vais faire. J'ai pris une petite machine à écrire et sur une feuille A4, j'ai écrit une petite histoire qui était un petit journal que je suis allé vendre à ma voisine. Et avec l'argent, ça m'a permis d'acheter des nouvelles cartes postales, des timbres, et j'ai continué à en envoyer. Excellent. Comme ça, jusqu'à ce qu'un jour TF1 m'écrive en disant « Merci beaucoup pour vos lettres, mais s'il vous plaît, arrêtez de nous en envoyer. » Mais en tout cas, moi, l'apprentissage, là, c'est que finalement, on peut se donner vraiment les moyens d'agir sur beaucoup de choses. Et en fait, ça, je l'ai appliqué encore et encore. J'ai eu la chance très jeune, à 17 ans, en fait, j'ai été poussé à être président de l'association de mon village pour la jeunesse. Et pareil, je me suis... En fait, j'ai rarement été bloqué sur le fait qu'il y a des limites. En fait, les limites, je ne les vois pas forcément. Et ça me permet de dire, bah, allez, on va faire ça, on va faire ci, etc. Et les projets... de cette force de la conviction et de la simplicité de pourquoi est-ce qu'on fait ça, font que souvent ça marche. Pas toujours et c'est toujours très dur, il y a toujours un combat derrière. Mais si tu veux, l'amorce, je l'ai toujours eu. Et ça s'est construit et ça s'est renforcé parce que quand je le faisais, bah, ça montrait que ça me donnait confiance d'oser un peu plus en fait. Donc voilà, je pense que c'est l'expérience m'a aussi mené en effet... là où j'en suis.
Ouais, et puis ben, ça se ressent naturellement dans tous tes propos, dans cet échange, je trouve qu'il est... Je me répète, mais ouais, d'une sincérité, d'une belle sincérité pour le coup, et de comprendre l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui et comment on va amener... Tu parlais sur l'éducation, pour le coup, comment on va éduquer les personnes, comment on va transmettre des messages forts, mais pas que transmettre, d'écrire une nouvelle histoire et contribuer surtout à l'épanouissement de cette belle terre qui a encore de nombreuses années à vivre, heureusement. Et avec tout, j'aime beaucoup aussi l'effort du collectif, pour le coup, parce que ça va être le septième salon, il y en aura d'autres, tu as plein d'événements. J'aime beaucoup ce que tu disais aussi, le fait d'être acteur 365 jours sur 365 jours. Donc ça, c'est très fort, pour le coup, d'humaniser encore plus les relations, de sortir de, on va dire peut-être de personnes qui nous écoutent, de cette zone de confort et oser, pour le coup. Je trouve que le mot oser, quand on impacte la chose, on dit que, et puis on réalise la chose. Alors, des fois, on se prend des murs, mais dans un sens, c'est pas plus mal, hein. Ça permet de rebondir par la suite. On va atterrir tranquillement parce que je sais qu'il y a encore quelques jours bien, bien présents pour toi pour lancer cette septième édition. Si t'avais un mot, une phrase qui t'a marqué, que t'aimerais partager à notre audience.
Alors moi, c'est pas forcément un un mot. Je vais raconter en fait une petite anecdote qui m'a beaucoup marqué parce que moi je lis beaucoup de biographies. J'adore les biographies. Je trouve que quasiment les histoires les plus palpitantes ne sont pas dans les romans mais dans la vraie vie. Et il y en a une qui m'a beaucoup marqué, qui m'a pas mal accompagné, c'est celle de Churchill. Winston Churchill, dans sa jeunesse, et ça revient justement sur ce terme d'expérience, c'est quelqu'un qui a accumulé énormément les expériences. En fait, je pense qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire, et c'est la question, et c'est des questions que beaucoup de monde se pose. Beaucoup de monde, en fait, si je reprends un petit peu, cette anecdote-là, pour moi, c'est pour répondre à la question que beaucoup de monde a, qui est je ne sais pas exactement comment trouver ma voie, je ne sais pas exactement ce que je dois faire, etc. Il y a beaucoup de questionnements. Et moi, je suis passé par là, parfois avec des prises de tête. Et parfois, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est accumuler les expériences, tester des choses. Parce que ça nous construit toujours. Lui, par exemple, il avait embarqué pour aller en Inde. Il voulait faire l'expérience de la guerre à ce moment-là. Donc, il va en Inde. Malheureusement, il arrive. La bataille est finie. Donc, il dit « Je veux prendre le prochain train pour aller sur l'autre champ de bataille. » En fait, il a fait ça. Mais en même temps qu'il faisait ça, il était journaliste de guerre. Et puis, il se baladait toujours avec ses bouquins pour apprendre des choses. En fait, il y avait une vraie soif d'accumulation de connaissances et d'expériences. Et pour moi, en fait, c'est si on travaille ce fond, en fait, les opportunités, la clairvoyance qu'on peut avoir sur « c'est ça ma place », elle se fait finalement naturellement. Mais il faut surtout travailler d'abord son fond et ses expériences et multiplier les champs des choses qu'on teste, en fait. Moi, je trouve que c'est passionnant parce que ça nous ouvre à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre comment ça se passe pour d'autres personnes aussi. Et puis, ça nous rend fort. Et puis finalement, ce mix des expériences qu'on peut avoir, eh bien c'est quasiment ce qui vous fait l'unicité. C'est-à-dire que plein de monde a plein d'expériences, mais la somme exacte des expériences que toi, tu auras vécues, par exemple, il n'y a que toi qui les as eues. Tu vois. Et donc voilà, moi, c'est juste un appel à vivre intensément les expériences, l'apprentissage que nous propose la vie.
Et bien, j'aime bien finir sur la vie, tout compte fait. On parlait tout à l'heure de maximiser les relations, de... Oui, c'est une belle histoire. Et puis, c'est, comme tu disais, simplement, c'est l'histoire de chacun. Mais de ne pas se fermer des portes, là, on peut passer par le petit trou de la serrure ou tout simplement y aller parce que c'est dans la joie, c'est dans la communication, c'est dans oser y aller pour le coup. Parce que bon, une porte, ça s'ouvre. Hein, même si c'est une porte blindée, je pense qu'il y a toujours des personnes qui arrivent à ouvrir cette porte blindée. Et comme tu disais, c'est la somme d'expérience, c'est la somme d'individualité. Mais en ayant de dire, bah tiens, le dernier jour de notre vie, dernier souffle, on se dira, bah tiens, j'ai pas de regrets. Quand quelqu'un disait, il faut pas avoir de regrets. Et...
Non, c'est ça. Il y avait cette phrase aussi de vivre comme si c'était le dernier jour, mais apprendre comme si on allait vivre éternellement.
Ouais, c'est beau. Hein. Ah oui, je pense que c'est une très belle anecdote qui a beaucoup de sens pour le coup, beaucoup d'intérêt. Et je trouve que aujourd'hui, c'est améliorez-vous au quotidien, mais faites-le pour le coup, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Et même, tu parles en termes de relations, de rencontrer des personnes, c'est tellement plus agréable. On parlait de sourire dans un métro parisien ou autre, où ce visage-là, tu vas pas être considéré comme un fou. Hein. Souriez aux gens, je pense que le sourire va vous revenir. Et c'est tellement important. Et puis, c'est impactant pour le coup. Ça a un sens pour vous. Et ça, c'est fort.
Et je pense que la question du sens, elle est permanente. C'est-à-dire que certaines personnes vont dire, mais pourquoi pourquoi accumuler les expériences? Pourquoi apprendre plus? En fait, moi, il y a deux choses. La première, c'est que mon expérience m'a montré qu'on a vraiment cette capacité d'influer les choses. On a beaucoup plus d'impact que ce qu'on croit. Et après, voilà, il y a des manières de bien le faire aussi et tout pour que ça ait vraiment un des impacts forts. Mais on a tous cette capacité de donner une inflexion au cours des choses. Ça, c'est le premier. Et puis, le deuxième, c'est que... mine de rien, et là je le dis parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai enfin eu 40 ans. Et je me suis dit, mais en fait, quand tu réfléchis bien, tu n'es peut-être qu'au milieu de ta vie. Et donc,
il y a du chemin encore à faire.
Il y a encore du chemin à faire. Donc, je peux apprendre encore énormément de choses qui vont me servir pendant 40 ans. Et donc, ça m'a remis aussi un petit coup de boost en disant, bah ouais, faut continuer à apprendre, tu lâches rien. Parce que... il y a encore beaucoup de choses à créer, à produire dans ce monde. Tu vois, moi j'aimerais bien, moi c'est ce que je me suis dit, mais en fait chaque année il y a Change Now et au sein de Change Now je développe toujours des grands projets. Tu vois, il y a eu une année c'était le classement des écoles que on s'est dit vas-y on va créer cette brique là. Là cette année on a une brique qui est hyper intéressante aussi, qui on est en train de développer et d'organiser un débat des têtes de liste européennes.
Très
parce
bien.
Qu'on est année d'élections européennes.
Ouais.
Et c'est souvent des élections qui sont un petit peu mises de côté, enfin, ou survolées. Or, il y a énormément, la plupart des progrès qu'on a eus, écologiques et sociaux, viennent de l'Europe sur les dernières années. Donc,
exactement.
Il faut le mettre sur le devant de la scène. Donc, on accueille ce débat-là. Et puis, je me dis, voilà, moi, j'aimerais bien que si chaque année, on crée quelque chose comme ça, bah, au bout d'un certain temps, on en aura créé 40. Ça fait quand même beaucoup d'impact.
Ouais, exactement.
et donc, voilà, il faut se permettre de vivre dans le temps long et d'essayer de garder cette niaque, finalement.
Ouais, ouais, la niaque, comme la BPI en parlait il y a quelques mois. Non, mais c'est important, je trouve que ouais, ça résume vraiment ton personnage et puis ce changement, tout compte fait. C'est accompagner les changements en étant impactant, en étant soi-même, en apprenant encore plus à se connaître, et puis en transmettant, en écoutant. Et puis, je trouve que, oui, il y a encore 40 belles années pour le coup, mais chaque année après chaque année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Et c'est génial parce que ça reste simple, c'est un bon chemin. Et puis, tout ce que tu as engrangé dans ton sac à dos les 40 dernières années, il y a encore du travail, comme il y a plus de 50%, voire même plus. Hein. C'est tout ce que j'espère. Bah, merci infiniment pour ce
merci
temps,
à toi.
Parce que c'est toujours riche pour le coup. Et comme ce podcast s'appelle Expérience sans l'accent, je le dis bien, c'est que l'accent il est à droite ou il est à gauche, mais ça donne vraiment un sens. Donc c'est toujours le plaisir d'échanger avec des personnalités comme toi en étant voilà, un registre très authentique et très sincère. Et puis en accompagnement ce changement pour le coup, en ayant encore pas mal d'idées. On peut rentrer en contact avec toi comment ? Hormis, bien sûr, de pouvoir te croiser dans les allées de Change Now, comment on peut faire ?
Alors, moi, il y a un truc qui marche assez bien, c'est LinkedIn, notamment. On peut me retrouver sur LinkedIn. C'est là où parfois je poste aussi, je partage certaines infos, des lectures, notamment lorsqu'il y a eu la COP, la dernière COP. Mais ça m'a... Enfin, j'ai partagé la vision de comment... Enfin, comment je vivais tout ça et qu'est-ce qu'il faut. Enfin, c'est toujours dur parfois d'avoir des clés de lecture sur des points d'actu. Alors, je ne dis pas que c'est la manière de lire les choses, mais en tout cas, c'est la mienne et c'est juste pour le partager.
Ben, c'est très bien. Donc, vous savez, vous pouvez rencontrer Santiago alias Santi. Donc, muchas gracias, señor, pour ce moment unique. Pas mal de belles choses et hâte d'être fin mars parce que ça approche dans quelques jours.
Très bien. Hasta pronto.
Hasta pronto.